politique.
Maintenant, les personnes qui sont déjà en poste, c'est sûr que ça ne me tente pas là, de mettre des gens dehors. Les nouveaux employés, c'est clair là, que ça sera interdit.
OK. Mais je comprends que pour ceux et celles qui sont
ouverture.
Là...
Il y a une ouverture.
À une clause grand-père, qu'on appelle là.
Il y a une ouverture.
OK. Êtes-vous prêt à invoquer la clause dérogatoire, la clause non-obstant, pour maintenir votre mesure?
J'examine la possibilité de le faire dès le dépôt de la loi. Donc, que ça soit réglé. Moi, mon objectif, là, c'est de passer à un autre appel. On adopte ça d'ici le mois de juin. On passe à un autre appel. C'est un dossier qui a traîné depuis 10 ans. Déchire le Québec.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Alors, vous l'avez reconnu, c'est le premier ministre François Legault ce matin en entrevue avec Paul Arcand, donc qui discutait signes religieux et laïcité. Pour discuter de ça, Paul Journet, éditorialiste à La Presse. Bonjour, Paul.
Salut, Bernard.
Carl Bélanger, consultant stratège. Bonjour, Carl.
Allô, allô.
Paul, moi, j'ai jamais entendu le premier ministre aller aussi loin sur ces deux sujets-là, droit acquis et clause dérogatoire. Juste pour être sûr que les gens nous suivent, clause dérogatoire, ça veut dire si tu l'insères dans le projet de loi ne peut pas être contesté pendant 5 ans. Le projet de loi est protégé contre les recours pendant 5 ans.
Moi, j'avais aussi jamais entendu M. Legault aller aussi loin. Souvenons-nous, juste après l'élection des caquistes, les deux porte-parole de la transition, Simon-Jolin Barrette et Geneviève Guilbeault, ils avaient été questionnés sur, entre autres, sur la clause des droits acquis, clause grand-père, donc par laquelle tous les gens à qui on interdirait à l'avenir de porter des signes religieux, là, ben, tous les métiers pour lesquels on interdirait de porter des signes religieux, y compris les enseignants, ben, si tu as déjà... un poste, si tu es déjà en place, ben on t'enlève pas ta job. Donc, la mesure ne s'appliquerait qu'aux nouvelles personnes qui veulent avoir ces emplois et non pas à celles qui sont déjà en place. Bref, on pourrait avoir une loi sans congédier quelqu'un en l'adoptant. Et donc, les deux porte-parole de la transition caquiste avaient dit « ben c'est pas ce qu'on avait promis ». Puis on voyait qu'il n'y avait pas le mandat non plus pour rentrer dans le jeu de la négociation. C'est un dossier qui se décide en haut, au bureau du premier ministre. Il y a plusieurs personnes qui le demandaient. Qu'il proposait. Écoute, souviens-toi, à l'époque même, d'ardents défenseurs de la Charte péquiste de la laïcité comme Guy Rocher, oui. Aussi comme Michel Gauthier, ils proposaient ça comme une espèce de forme de compromis. Puis là, M. Legault a été beaucoup plus loin que je ne croyais qu'il irait ce matin en interview. Puis clairement, il a dit « on est ouvert ».
Fait que dans le fond, c'est un peu comme quand on pouvait jouer avec podcast. Puis que la Ligue disait, ben faut jouer avec un casque.
Parles-tu de Al Yafrati en ce moment, Carl?
Entre autres, Guy Lafleur, il y en avait plein des joueurs qui jouaient avec pas de casque, même si la règle disait que ça prenait un casque. Donc, c'était un peu
ça close. Prenait un casque pour les nouveaux, mais dans le cas de Lafleur qui avait commencé sa carrière sans casque, il aurait pu continuer sans casque.
On crée une... dans le fond, c'est
comme un système à deux vitesses.
Deux catégories de citoyens.
Ça va poser des problèmes.
Oui, c'est sûr que ça va poser...
Mais c'est pour ça qu'il amène la clause dérogatoire. À mon avis, Paul, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il amène la clause dérogatoire justement pour empêcher ceux qui diraient ça n'a pas d'allure, une clause grand-père, parce que tu as comme deux droits dans la même école, un qui a le droit de le porter, l'autre qui n'a pas le droit de porter le signe. Alors, pour éviter les contestations, notamment sur cette base-là, il invoquerait la clause dérogatoire, puis à ce moment-là, il serait tranquille pour 5 ans.
Oui, bien, sur la clause des droits acquis, c'est vrai que ça crée une inégalité entre les gens déjà en poste. Puis on va arrêter de dire les gens, c'est surtout les enseignantes qui portent le voile.
Il y a 50 ans, c'était autre chose.
Non, mais en ce moment, c'est ça.
Dans 50 ans, j'ai toujours dit la laïcité, là, c'est pas une religion, ça vise pas une religion, ça vise à séparer les religions, toutes les religions.
Je comprends que c'est un principe philosophique, mais dans ce cas-ci, de façon très pratique, les personnes qui perdraient leur emploi, ce serait essentiellement des enseignantes qui portent le voile. Et donc, on introduit, c'est vrai, une inégalité entre les personnes déjà en poste et celles qui pourraient avoir le métier plus tard. Mais bon, l'inégalité, elle est créée parce qu'on atténue l'atteinte au droit individuel d'une certaine catégorie de personnes. Donc, c'est un mal pour un bien, du moins c'est le point de vue de ceux qui défendent ça. Mais pour venir à la clause dérogatoire, comme tu le dis, je pense pas que le principal objectif, là, c'est pour répondre aux droits acquis. Au contraire, là, c'est juste de façon générale. Écoute, on sait déjà, de toute façon, il y a déjà une loi qui a été adoptée par le gouvernement libéral qui n'interdisait pas les signes religieux.
Elle concernait
seulement...
Elle est déjà contestée.
Il faut juste remettre le problème là, très rapidement en contexte. Donc, on a déjà une loi qui dit que si tu donnes ou reçois des services de l'État, tu dois le faire à visage découvert, à certaines exceptions près, puis on ouvre la porte au cas par cas. Donc, bref, niqab, burqa, service de l'État, donné ou reçu, t'as pas le droit. Cette loi-là est adoptée, elle est suspendue par les tribunaux durant sa contestation. Donc, ça va moins loin, probablement, que ce que veut faire. Ben, c'est différent et peut-être plus facile à justifier devant les tribunaux que ce que veut faire le gouvernement caquiste. C'est déjà ça, c'est contesté. Donc, t'as ça et on sait que la loi, qu'elle concerne ou non les enseignants, qu'elle est ou non une clause de droit acquis, directement, elle va être contestée. Donc, la clause dérogatoire, ça a pour effet de dire, ben, écoutez, même si les tribunaux disent qu'on viole les libertés, la liberté de religion, ça peut tenir pendant 5 ans, puis c'est il faut refaire le débat dans 5 ans.
Mais c'est la beauté de l'approche immédiate, c'est qu'on n'a pas besoin des tribunaux. Et c'est ce que j'aime. Moi, évidemment, dans le débat, je suis pas très friand de dire aux gens comment s'habiller et comment pas s'habiller. Ceci dit, si on veut aller là-dedans, mais qu'on s'assume puis qu'on invoque la clause dérogatoire immédiatement, comme ça on perdra pas l'argent des contribuables en recours puis à se débattre jusqu'en Cour suprême. On va s'assumer puis on va dire ben nonobstant la Charte des droits et libertés, vous avez pas le droit de mettre ces affaires là.
Par contre, ça vient quand même avec un message assez fort, c'est de dire que c'est une espèce d'aveu de dire que la loi qu'on est en train d'adopter
risquerait d'être
invalidée par les tribunaux parce qu'elle va trop loin dans son atteinte à la liberté de religion. Oui. Donc, il y a une espèce de mea culpa implicite à l'utilisation dès le début de la clause dérogatoire.
Oui, on le fait en connaissance de cause. On dit, on va brimer vos droits et libertés et on utilise la clause dérogatoire pour le faire.
Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est là, on a parlé de la clause des droits acquis. On s'entend, là, c'est pas ça qui va révolutionner le projet de loi. Ça va atténuer un peu son effet, mais la négociation à venir, en fait, s'il y en a une, ça va être est-ce que la Coalition Avenir Québec va reculer sur les enseignants?
Oui.
Moi, c'est ça que je vais surveiller, parce que c'est vrai que la CAQ, maintenant, a 60 % des députés à l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas besoin de l'appui d'un seul parti, mais symboliquement, Je te propose deux hypothèses. Un, tu as la CAQ qui adopte à majorité simple contre les trois partis ou contre deux partis d'opposition son projet de loi en interdisant aussi les signes religieux pour les enseignants, ou la CAQ qui réussit à rallier Québec solidaire. Ça sera pas facile, c'est pas impossible. Et aussi le Parti québécois. Et donc, tu as 3 des 4 partis à l'Assemblée nationale qui adoptent un projet de loi qui reprend les recommandations du feu compromis Bouchard-Taylor. Donc,
sans les enseignants,
ce qui était le compromis Bouchard-Taylor. Ouais. Donc, est-ce que tu mets de côté les enseignants pour avoir une position qui ressemble plus à une position de l'Assemblée nationale moins les libéraux qu'une position uniquement des caquistes, peut-être avec les péquistes?
Oui.
C'est sûr que l'Union ferait la force dans ce cas-là, mais j'ai des gros doutes parce que j'ai l'impression que certains partis vont dire « vous allez trop loin » et les autres partis vont dire « vous allez pas assez loin ».
Oui, l'autre chose aussi, Paul, c'est que tu parles du consensus des partis. Moi, je te répondrais, on l'a vu encore la semaine passée ou la semaine d'avant dans le sondage de Radio-Canada, le consensus dans la population est très, très, très fortement favorable à l'interdiction des signes religieux, y compris pour les enseignants et les enseignantes.
C'est vrai, mais comme tu le sais, Bernard, un sondage, ça ne suffit pas pour...
Ça fait 10 ans, Paul. Non, je ne dis pas que...
On est rendu
à 15 000 sondages. Voir
quand ma phrase va être finie, elle va être encore meilleure.
OK.
je ne dis pas que ce sondage n'est pas représentatif de ce que pensent les Québécois. Pas du tout. T'as raison de dire que ça fait des années qu'on sonde les Québécois. Ce que je te dis, c'est qu'un sondage ne suffit pas comme argument pour adopter un projet de loi qui limite certaines libertés religieuses. Tu as besoin d'autres arguments. Mmh. Ceux qui sont en faveur du projet de loi caquiste, je ne dis pas qu'ils ne s'appuient que sur le sondage. En effet, ils ont plein d'arguments. On les a déjà entendus dans le débat sur l'apparence de neutralité, etc. Les gens qui exercent une forme d'autorité morale ou coercive. Bon, vous connaissez l'argument.
Oui,
mais bref, il y a quand même des limites à invoquer le sondage puis le mandat de la population.
Oui, je suis d'accord. Mais parce que tu me donnes l'argument du consensus parlementaire. Moi, je te réponds par le consensus populaire. Puis je pense que c'est un aussi bon argument, l'un que l'autre. Cela étant dit, tu pourrais dire, ni le consensus populaire, ni le consensus parlementaire ne sont nécessairement un argument convaincant ou un argument suffisant pour une atteinte présumé aux droits individuels.
Je te ferai une autre distinction
c'est pas une justification suffisante.
Mais je te ferai une autre distinction entre le consensus, ou du moins l'opinion la plus populaire dans la population, puis un certain consensus parlementaire, même si, encore une fois, c'est certain qu'ils n'auront pas les libéraux de leur côté. Les tribunaux, lorsqu'ils interprètent les projets de loi, ils vont pas le lire de la même façon, par exemple, si c'est un point de vue unanime de l'Assemblée nationale versus un point de vue dépendu seulement par un gouvernement à majorité simple. Évidemment, dans ce cas-ci, ça sera pas aussi clair parce que c'est certain qu'on n'aura pas une unanimité parlementaire, mais je veux juste te dire, sur le plan des principes, c'est quelque chose qui, ça va pas renverser une décision des tribunaux, mais ça peut être ajouté quand même dans leur réflexion.
Ah oui? Toi, tu as déjà lu un jugement? Je te challenge pas, je te conteste pas là dans ce que tu viens de dire. Ça se peut. Je te demande, tu as déjà entendu un juge dans un jugement ou un tribunal dans un jugement dire, prendre en compte dans sa décision le fait que la loi avait été adoptée par plus que la seule majorité du parti majoritaire?
Je dirais pas jusque-là. Je vais donner l'exemple du suicide assisté. Tu as eu le jugement au début des années 90 où la Cour suprême était très, très partagée et finalement le cas de Sue Rodriguez, qui voulait le suicide assisté, sur les principes, ça a été refusé. Le débat évolue dans la population. Entre autres grâce à l'initiative de Gaétan Barrette à la FMSQ, de Véronique Yvon à l'Assemblée nationale. Un consensus s'est créé à Québec. Je ne dis pas que c'est ça qui a fait passer la décision de la Cour suprême du noir au blanc. Et je te dis encore moins que les tribunaux, parce que tu as un projet de loi qui est adopté à 64 députés versus 84, là, ça va changer complètement leur décision. Mais à tout le moins, c'est quand tu réussis à créer un consensus fort dans la population et auprès des élus, je me dis que peut-être que ça peut un peu nuancer,
tu dis que c'est un
contextualiser la réflexion
c'est
de la Cour.
C'est un argument auquel les juges peuvent être sensibles.
L'interprétation judiciaire évolue aussi avec la société. Hein. C'est une réalité. Il y a des jugements qui sont portés aujourd'hui qui n'auraient pas été portés il y a 40 ans. C'est la société évolue.
Ouais. En tout cas, regarde, moi, je veux pas aller trop loin dans ce débat-là parce que on va en parler beaucoup après Noël, hein, parce que le projet de loi va être déposé, puis on va en parler, j'ai l'impression, jusqu'à son adoption. Puis t'as entendu Legault qui parle de juin.
Mais oui, c'est ça, c'est une autre nouvelle,
Son objectif, c'est de faire adopter ça d'ici juin. Ça, c'est pas mal clair. Fait qu'on aura l'occasion d'y revenir, mes chers compères. Hein? C'est correct, ça?
Oui.
Hein? C'est bien raisonnable. Un accommodement raisonnable.
Pas mal raisonnable.
Hé, bonne! On va s'arrêter. Au retour, on continue.
Une vue d'ensemble de l'actualité.
C'est avec un peu de nostalgie qu'on ira pendant 10 ans dans une autre salle pour continuer ces débats.
Nous allons faire de notre nouvelle chambre le fer de démocratie que cet édifice a été pendant des décennies.
Certains d'entre nous ne remettront peut-être jamais les pieds dans cette chambre comme député, mais le souvenir de ces murs restera gravé dans nos mémoires.
Je suis un peu anxieux aujourd'hui de quitter cet édifice. On s'attache, vous savez, à son décor, à son histoire, à ses fantômes. J'espère que ces fantômes nous suivront dans le nouvel édifice.
Trêville PM.
Alors, c'était dans l'ordre Justin Trudeau, Monsieur Scheer, le chef du Parti conservateur, Guy Caron, le chef parlementaire du NPD, et Louis Plamondon, le bloquiste qui est le vétéran en chambre présentement. Là, c'est alors vous aurez compris qu'il parlait de cette fermeture de la Chambre des communes actuelle pour la transporter dans un autre édifice. Enfin, ils ferment l'édifice au complet, mon cher Carl.
Exactement. C'était censé être la dernière journée hier, mais ça siège encore aujourd'hui.
Ben oui!
Les conservateurs ont décidé qu'ils s'ennuieraient beaucoup de l'édifice. Donc, on parle présentement d'une tentative ultime de bloquer la réforme électorale du gouvernement, mais on s'entend quand même que la station royale soit... Si c'est pas aujourd'hui, là, ça sera demain. Les libéraux vont faire adopter ça aujourd'hui. Écoute, c'est quand même quelque chose, hein? Ça fait depuis 1920 qu'on siège dans cet édifice-là. Évidemment, en 1916, il y avait eu l'incendie de l'édifice du Parlement. Donc, on avait déménagé le Parlement au Musée Victoria à Ottawa, qui est aujourd'hui le Musée de la nature. Et c'était là la dernière fois où le Parlement avait siégé à un autre endroit que l'édifice du centre. Et ce qui est intéressant, j'ai remarqué ça en faisant mes recherches, c'est que le Sénat, ça ne s'invente pas, siégeait dans le hall des fossiles invertébrés. Alors, ça s'invente pas, comme je te dis.
Les fossés d'invertébrés.
Les fossiles invertébrés.
Oui. Dans le musée de la nature, Paul?
Oui, je digère.
Il bouge bée.
Je digère l'information.
Vraiment.
Donc, hier, on avait la photo de famille, on avait Andrew Scheer, les gens
il
étaient...
Il commence à pogner,
oui,
pense.
Donc c'est correct, ils vont finir par comprendre. C'était un moment donc assez solennel, parce quand on revient en 2019, oui. On siégera dans l'édifice de l'Ouest. Et puis...
Dans une toute nouvelle, magnifique...
C'est très beau.
Chambre des communes, avec un beau toit de verre.
Oui, un beau toit de verre. On voit un vieux mur de pierre derrière qui fait partie de l'édifice de l'Ouest.
Ouais.
Donc, c'est très, très beau. C'est plus spacieux, c'est plus moderne. Écoute, on parle de 10 ans là, que ça va être fermé, l'édifice du Centre.
De
moi, j'ai des jours. Je pense que ça va être au moins une quinzaine d'années.
Puis de milliards de dollars.
Ça va coûter très, très cher.
Puis je vais te dire, ça fait sourciller des gens qui j'en parlent.
Ah, c'est sûr.
Des
mais...
milliards pour refaire l'édifice du Centre, reconstruire la vieille Chambre des communes. Parce que là, ils vont déménager dans Nouvelle. Mais au bout de 10-15 ans, quand ça va être fini, ils retournent dans la vieille rénovée, là.
C'est ça. C'est l'objectif, en tout cas. Mais évidemment, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Il y a sûrement de l'amiante partout dans l'édifice. Toutes sortes de choses. Donc, ça va coûter très, très cher. Ceci dit, c'est historique. C'est plein de souvenirs. Et bien, tu le sais, oui. Toi, tu étais un page au service. Alors,
service des députés.
À tous les jours, tu allais leur chercher des verres d'eau.
Ben, finis ta phrase, parce que là, au service, tu pensais, le monde, ils vont dire au service de Sa Majesté, quand même. N'exagérons pas.
T'as prêté serment, toi?
Oh, bah, boy. Ben, j'ai prêté serment comme député.
Oui, mais à Sa Majesté.
Oui,
OK.
Je suis obligé, Christophe Colomb. Sinon, j'ai pas le choix, sinon, je peux pas siéger. Mais tu petit père, j'ai pas prêté serment.
Non, c'est certain, mais quand t'es là. Tu sers la couronne.
Ben, je sers les députés. Ouais. Hey, veux-tu pas faire ton haïssable?
Écoute, quand même, tu vas être d'accord avec moi que à chaque fois que tu entres dans cet édifice-là...
Ah, il y a quelque chose.
C'est l'histoire. C'est, et à tous les jours, l'histoire se fait dans cet édifice-là. Ça ne veut pas dire que tous les moments sont historiques, mais quand même...
J'ai gardé mon kit de page, tu sais ça.
Hein? Tu fais ça encore?
C'est bien chier, ça. C'est quoi cette affaire-là? Non, je l'ai pas dit. Peut-être.
On va te laisser le bénéfice du doute.
Mais sais-tu, je me rappelle, les souvenirs que j'ai, là, j'ai plein de beaux souvenirs de cette. Alors, tu sais, t'as 20, j'avais quoi, 82, j'avais même pas 20 ans. T'as 19 ans.
C'est ça.
Tu travailles avec. Tu sais, moi, j'ai vu Pierre Trudeau, le père, là, l'avant-dernière année comme premier ministre, là, je l'ai vu de mes yeux vus, là, en action, là. Ouais. Et oui, c'est vrai que c'est. Il y a quelque chose de. Comment je te dirais ça? Tu rentres dans cette pièce-là, là, puis ça impose. Ça
mais dans l'édifice au complet, c'est unique. Hein? Et puis, moi, j'ai passé 19 ans là, de ma vie à travailler dans cet édifice-là. Puis, je veux dire, à tous les jours, tu sais jamais ce qui peut se passer. Puis, il y a des moments historiques qui sont très, très beaux. Et d'autres qui sont plus dramatiques. Je veux dire, la journée de l'attentat terroriste, là, j'étais dans mon bureau quand c'est arrivé. Ça m'a marqué. Ça a marqué
c'est
beaucoup
sûr,
de gens.
C'est sûr.
Le décès de Jack Layton, évidemment, en chapelle ardente, en plein milieu du foyer de la Chambre des communes. C'est un
Pierre-Éliott Trudeau exposé en chapelle ardente aussi.
Ben oui, mais j'étais ce soir-là.
Ah oui, mais moi aussi.
On m'a appelé à la rescousse pour aider Ed Broadbent, qui l'avait évidemment bien connu. Et,
pour l'aider, qu'est-ce que tu veux dire?
Parce que lorsque M. Trudeau est mort.
Oui.
Les médias voulaient des réactions.
Oui.
Et moi, j'étais attaché de presse d'Alexa McDonough à l'époque. Et donc, Ed Broadbent s'en venait au Parlement, puis on m'a demandé de l'aider pour gérer ses médias.
Oui.
On l'a même fait passer, et ça, c'est un accro au protocole. On l'a fait passer devant Stockwell-Day, qui était chef de l'opposition officielle, pour l'amener à réagir devant les médias. Parce qu'évidemment, les médias étaient beaucoup plus intéressés avec quelqu'un avec qui il avait débattu Pierre-Éliott Trudeau que Stockwell-Day.
Là, j'ai un auditeur, là. Ils ont de l'esprit, hein, nos auditeurs. Il y en a un qui dit, on appelle ça le poids de l'histoire, Bernard, en parlant de
en parlant de ton costume?
En parlant de mon kit.
Celle-là, Bernard, je l'ai pogné du premier coup.
Ah, bravo! Il est plus vite qu'un fossile, notre Paul, finalement. Bon. Mais oui, on t'aime. Arrête donc.
C'est
plein d'émotions.
C'est plein d'émotions.
Ça a coûté un milliard, il faut le dire. On est déjà un milliard de dépensés pour refaire l'édifice de l'Ouest qui va abriter ou qui abrite déjà la nouvelle Chambre des communes dans laquelle il déménage. On parle de plusieurs milliards pour le nouveau édifice du Centre qui va être 10-15 ans de travaux. Puis il ne faut pas oublier l'argent qu'ils ont mis pour accueillir le Sénat.
Exactement, qui s'en va à la gare, l'ancienne gare d'Ottawa, qui est au centre-ville.
Devant le Château Laurier.
Ils ont dépensé plusieurs millions pour l'édifice Wellington au coin de Bank et Sparks.
Qu'est-ce que tu dis aux gens qui nous écoutent, qui disent non, ça n'a pas de bon sens de dépenser des milliards pour ces édifices-là?
Ben écoute, je dois dire qu'en tant que société, on n'a pas beaucoup, certainement ici en Amérique du Nord, de bâtiments comme ça. Et je sais que ça coûte très, très cher, mais si on s'en débarrasse, on pourra pas reconstruire.
Faut préserver ce patrimoine.
À mon avis, c'est un patrimoine unique. Et on se doit de le préserver au niveau de l'histoire. Ça vaut la peine.
Carl Bélanger, Paul Journet, merci à vous deux.
Merci.
On se reparle demain peut-être de la Chine, hein, Carl, parce que tu voulais nous en parler, mais qu'est-ce que tu veux? On s'est laissé emporter
par le poids de l'histoire.